2 Rois, chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 19. C'est bon? Alors je le lis au nom du Seigneur. Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son Seigneur, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens avaient mené des expéditions et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son Seigneur, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Le roi de Syrie dit, « Vas-y, rends-toi à Samarie, je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit, prenant avec lui 300 kilos d'argent, 60 kilos d'or et 10 habits de rechange. Et il apporta la lettre au roi d'Israël. Celle-ci disait, « Maintenant que cette lettre t'est parvenue, tu sais que j'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu cette lettre, le roi d'Israël déchira ses habits et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre ? En effet, il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sache-le donc et comprenez-le. Il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits, il fit dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes habits ? Fais-le venir vers moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va te laver cette fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut indigné et il s'en alla en disant, « Je me disais, il sortira en personne vers moi, il fera appel au nom de l'Éternel son Dieu, il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. Les fleuves de Damas, l'Abana, et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ? » Il tourna le dos et il partait plein de colère lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler. Ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors se plonger cette fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Dès son arrivée, il se présenta devant lui et dit, « Je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur la terre, sur toute la terre, sauf en Israël. Maintenant, accepte, je t'en prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai rien. » Naaman insista pour qu'il accepte, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on me donne de la terre d'ici, à moi ton serviteur, comme on donne l'équivalent de la charge de 2 mulets, car moi ton serviteur, je ne veux plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Cependant, que l'Éternel veuille pardonner ceci à ton serviteur, quand mon Seigneur entre dans le temple de Rimmon pour s'y prosterner, il s'appuie sur sa main et je m'y prosterne aussi. Que l'Éternel veuille bien me pardonner à moi, ton serviteur, lorsque je me prosternerai dans le temple de Rimmon. » Élisée lui dit, « Pars dans la paix. »
Merci, Michael. Je pense que j'en aurai bien besoin tout à l'heure.
À travers ce texte, dans Deux Rois, le message de ce matin que je vous invite à voir avec moi s'intitule « Comment Dieu agit ?» Dans ce texte, si on regarde rapidement, on voit que Dieu veut guérir Naaman. Mais en fait, il veut faire plus que ça. Il ne veut pas seulement le guérir, mais il veut l'amener à reconnaître qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Et puis après, adorer cet unique et seul Dieu. Avant de rentrer dans le détail du texte, je vais vous expliquer un peu le contexte. Donc, l'histoire se passe à l'époque du prophète Élisée. Je pense que vous le connaissez. C'est le prophète qui était après Élie. À cette époque-là, le royaume d'Israël était déjà divisé en deux. Il y avait le royaume du nord, de Samarie, puis le royaume du sud, de la Judée. Okay ? Et à cette époque-là, le roi s'appelle Joram. Joram, c'est un fils du roi Akab. Akab, il était très réputé. D'ailleurs, sa femme aussi est aussi réputée que lui, qui s'appelle Jézabel. Ils étaient très réputés parce qu'ils se sont totalement détournés de Dieu. Ils ont établi des stèles pour Baal, pour adorer Baal. Ils ont fait tuer plusieurs prophètes de l'Éternel. Par contre, le fils d'Akab, Joram, il a détruit ces stèles, mais il n'était pas pour autant retourné vers l'Éternel. Si on regarde au chapitre 3, du verset 1 à 3, il est dit à propos du roi Joram, donc toujours dans Deux Rois, chapitre 3, verset 1 à 3. Joram, fils d'Akab, devint roi sur Israël à Samarie. La 18e année de Josaphat, roi de Juda, il régna 12 ans. Il fit ce qui déplaisait à Dieu, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il supprima la pierre levée du Baal que son père avait faite. Mais il s'attacha au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en écarta pas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Jéroboam ? Jéroboam, à Samarie, il a élevé des veaux d'or pour que les gens ne puissent pas aller à Jérusalem pour adorer le vrai Dieu. Donc, lui aussi, il a poussé le peuple d'Israël à adorer ses idoles. Okay ? Donc, c'était un peu le contexte qui s'est passé. L'histoire, au tout début, ça se passe dans un autre pays qui est juste à côté, la Syrie. On connaît très bien l'histoire entre la Syrie et Israël actuellement. Je pense qu'à l'époque, ça ressemblait un tout petit peu à ça aussi. On voit juste directement au tout début, toujours au chapitre 5, au verset 2. « Or, les Syriens avaient mené des expéditions et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. » Donc, ça reflète que souvent, il y a des Syriens qui vont un tout petit peu en Israël faire des attaques assez rapides, prendre des captivités et des butins, et puis revenir dans leur camp. Okay ? On va voir petit à petit, avec le texte, quelle était vraiment la nature de cette relation. Maintenant, je vous invite à rentrer directement dans notre texte. On va voir la première partie, que j'appelle l'introduction. Donc, pour introduire, ce texte nous raconte l'histoire d'un puissant général syrien qui avait beaucoup de succès. Il est dit au verset 1 à propos de ce puissant général, que par lui, l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Donc, il avait deux succès dans toutes les entreprises qu'il a faites. Et apparemment, c'est l'Éternel qui lui a donné ce succès. Je pense que lui, il ne le savait pas. Et à cause de ses succès, le roi de Syrie accordait beaucoup d'estime à ce général. Pourtant, il avait un grand problème. Le texte dit qu'il était lépreux. J'imagine qu'il essayait de se débrouiller avec ses moyens, avec sa richesse, de se faire guérir parmi les docteurs qui existaient en Syrie, mais ça n'a pas avancé les choses. Il est toujours resté lépreux. Et c'est ici que rentre en jeu une petite fille. Donc, la petite fille, vous la voyez, à partir du verset 2, il est dit que c'est une petite fille qui a été prise en captif. Et c'est elle que Dieu allait utiliser dans la guérison de ce puissant général. Au verset 4, il est dit, « Si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite à Samarie, cet homme le guérirait de sa lèpre. » Dans cette petite phrase, il y a deux points qui sont à marquer. D'abord, le point numéro 1, C'est malgré l'injustice qu'elle a vécue, elle n'est pas amère ni animée d'un sentiment de rébellion envers ses maîtres. Donc, j'explique un peu le contexte. Elle habitait dans l'autre pays à côté, Israël. Il y a des brigands qui ont kidnappé, qui l'ont ramenée en esclave d'un général. Peut-être que si j'étais à sa place, je serais quand même animé d'un sentiment de rébellion envers ces personnes qui m'ont réduit à l'esclavage. Mais par contre, elle, elle était pleine de compassion. Et cette compassion l'a poussée à faire part à sa maîtresse qu'en Israël, le pays d'où elle vient, il existe un homme de Dieu qui est capable de guérir son maître Naaman. Je ne sais pas quelle est votre relation avec vos voisins, vos collègues, vos amis, les personnes qui vous entourent. Je ne sais pas si vous subissez des injustices dans votre vie. Je voudrais juste vous poser la question suivante. Quel est votre sentiment envers ces personnes? S'ils vous ont fait de l'injustice, est-ce que vous souhaitez vous rebeller ou bien vous venger? Est-ce que vous vous lamentez de votre sort? Ou bien, comme cette fille, est-ce que vous avez de la compassion envers ces personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur? Car Jésus est mort pour eux aussi. Peut-être qu'ils ne le savent pas, peut-être qu'ils n'ont pas encore la portée du sacrifice de Jésus. Et vous, est-ce que vous le souhaitez que eux aussi, ils soient sauvés? Le deuxième point que je voudrais attirer votre attention, c'est qu'elle, malgré sa situation, elle n'est pas non plus animée d'un esprit de révolte envers Dieu. Malgré qu'elle soit séparée de force avec sa famille et ses proches, elle ne demande pas, elle ne se demande pas si Dieu existe, pourquoi telle injustice? Dans ce verset, on voit qu'elle a entièrement confiance à Dieu. Elle est sûre que Dieu, à travers Élisée, peut guérir son maître. Est-ce que vous pouvez imaginer en un seul instant comment, quel serait son sort si après avoir consulté le prophète, Naaman serait revenu lépreux? En gardant cette foi en Dieu, Dieu l'a utilisé pour sauver ce puissant général syrien. L'application que j'ai tirée, c'est que des fois, ou plutôt souvent, on a du mal à comprendre le plan de Dieu. Il nous fait traverser des épreuves qui sont incompréhensibles. Des fois, ce sont des épreuves qui nous font demander à quoi Dieu joue-t-il? Est-ce qu'il est toujours au contrôle de notre vie ou est-ce qu'il nous a totalement oubliés? Face à ce genre de situation, soyons comme la petite fille, gardons notre confiance à Dieu. Et puis, dans ces moments difficiles, partageons notre foi aux autres. Et Dieu nous utilisera comme il a utilisé la petite fille. Alors, après avoir entendu les paroles de sa servante, qu'est-ce qui s'est passé? On peut lire le texte à partir du verset 4 qui dit « Naaman alla dire à son Seigneur, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit « Vas-y, rends-toi à Samarie, je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit, prenant avec lui 300 kilos d'argent, 70 stores et 10 habits de rechange. Okay. Une fois que Naaman a appris la parole de la petite fille, c'est une petite fille, c'est son esclave. Sa décision, c'est d'y aller directement vers le roi de Syrie pour lui demander une autorisation pour aller dans le pays d'Israël. Comme je l'ai dit au tout début, à cette époque, la relation entre Israël et Syrie était assez tendue. Au verset 7 de notre texte, on voit que lorsque le roi d'Israël prit connaissance de la lettre du roi de Syrie, il l'a prise pour un prétexte pour commencer la guerre. Ensuite, si on tourne la page au chapitre 6, on voit que la Syrie est entrée vraiment en guerre contre Israël. À travers ces démarches que Naaman a entreprises, on constate à quel point il voulait être guéri. Il a mobilisé tous ses moyens, tous les moyens à sa disposition pour être guéri. D'abord, son intimité avec le roi d'Israël, pour aller en Israël, pour consulter le prophète de Dieu. Ensuite, il a apporté avec lui plusieurs cadeaux de grande valeur. 300 kilos d'argent, c'est beaucoup, 60 kilos d'or et 10 habits de fête. En continuant le texte, au verset 6, on voit que Naaman arrive en Israël. Il transmet la lettre de son roi au roi d'Israël. En lisant cette lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et fut pris de colère en disant « Est-ce que je suis Dieu, moi ? Est-ce que je suis le maître de la vie et de la mort pour que cet homme me demande de guérir quelqu'un de sa lèpre ? Reconnaissez donc et voyez qu'il me cherche querelle. » Je trouve que c'est une réaction assez étonnante d'un roi qui est censé être le roi du peuple de Dieu. Mais comme je l'ai dit au verset 1 et au verset 2 de notre texte, on comprend mieux la réaction, c'est que Joram, il fit ce qui déplaisait à Dieu. Il s'attacha au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui a fait pécher Israël et ne s'en écarta pas. À force d'adorer les idoles, il a totalement oublié que Dieu existe. Il a totalement oublié qu'il y a un prophète de Dieu dans son pays. Je pense et j'espère que vous n'êtes pas, dans le cas de Joram, que vous avez oublié Dieu. Néanmoins, des fois, face à une situation difficile, ou bien dans le cas d'une demande démesurée, on peut réagir comme Joram. On voit cette situation comme une provocation, où on se résigne en disant que cela est au-dessus de nos moyens. Ne soyons pas comme Joram, qui, à force d'adorer ses idoles, ont totalement oublié les œuvres de Dieu. Par exemple, la délivrance du peuple d'Israël d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, les œuvres de Dieu pendant le règne de David, et puis totalement oublié qu'il existe dans son pays un prophète de Dieu. Pourtant, quand on lit le livre de Deux Rois, juste au chapitre 3, il est dit que Élisée est venu à son secours quand il cherchait de l'eau, et Élisée lui a prédit la victoire, ce qui a été le cas. Soyons plutôt comme Élisée qui, au verset 8, après avoir pris connaissance de la situation, disait « Naaman n'a qu'à venir me voir, il saura qu'il y a un prophète en Israël. » C'est-à-dire, il saura qu'il est un vrai Dieu et qu'on voyant agir à travers son prophète. Les situations difficiles, les cas impossibles sont là pour montrer que Dieu existe et qu'il est puissant. Juste un petit témoignage. Donc, depuis quelques mois, on a réfléchi avec ma femme que ce serait bien qu'on déménage, qu'on trouve un appartement où il y a un jardin pour que Mika puisse bien jouer, pour qu'il puisse profiter de l'espace. Et pendant plusieurs moments, on a cherché un appartement et on en a trouvé un du côté de Saint-Martin. Ça nous a vraiment plu. Donc, c'est à la fois une annonce pour dire qu'on va déménager. Et donc, pendant qu'on a discuté avec l'agent immobilier, il nous a dit « Vous pouvez prendre l'appartement à une seule condition, que vous emménagez au plus tard, à la fin du mois d'août. » Le problème, c'est que nous n'avons pas encore posé de préavis pour notre appartement à Saint-Cyprien. Et on nous a dit que les préavis, ça dure à peu près 3 mois. Donc, si on déménage à la fin du mois d'août, ben, on aura 2 mois de loyer à payer. Et pourtant, on n'habite pas dans l'appartement. On était assez inquiets et on a beaucoup discuté avec ma femme, mais bon, on a dit, on y va, on va voir comment le Seigneur va agir. Donc, je suis allé quand même voir l'agence immobilière pour essayer de négocier s'ils peuvent réduire le préavis. Ils ont dit, non, on ne peut pas réduire le préavis. Par contre, vous pouvez faire des annonces sur Internet et peut-être s'il y a des personnes qui sont prêtes à prendre l'appartement, avant la fin des préavis, on pourra négocier quelque chose. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont vu notre annonce sur Facebook que voilà, on cherche quelqu'un qui souhaite bien louer notre appartement. On a mis l'annonce, je pense, le mercredi soir sur Facebook. On l'a mis sur le site de Le Bon Coin. Le mercredi soir, ça s'est affiché. Le jeudi matin à 7h, à 9h, ma femme a reçu son premier coup de fil. Voilà, on est intéressé par votre appartement. Est-ce qu'on peut le visiter ? Donc, ma femme disait, ouais, on est motivé. D'ailleurs, on veut partir le plus tôt possible. Donc, on serait content si vous venez pour visiter l'appartement. 9h, une personne. Peu après, deuxième personne, troisième personne, quatre personnes. Dans la première journée, on a eu 5 appels de personnes qui sont intéressées pour visiter notre appartement et faire une visite. Le lendemain, le vendredi, 5 autres personnes. Par contre, ce qui s'est passé, le vendredi, à midi, je pense après, dans le début de l'après-midi, il y a ma femme qui reçoit un coup de fil, c'est l'agence qui dit, voilà, il y a une dame qui a visité votre appartement tel jour, elle a déposé ses dossiers, on est favorable pour la prendre. Et apparemment, cette dame, elle est prête à emménager dans notre appartement actuel le plus tôt possible, donc c'est-à-dire vers la fin du mois d'août. On n'attend plus que les papiers soient signés la semaine prochaine et on pourra préparer à faire les cartons. Et je trouve que ça, c'est vraiment une application de ce texte que l'on voit. C'est que les situations impossibles sont là pour montrer que Dieu existe et qu'il est puissant. On continue le texte. Je vous invite à regarder au verset 9. Donc, qu'est-ce qui se passe à partir du verset 9 ? Naaman et sa troupe arrivent enfin devant l'entrée de la maison d'Élisée. Et là, il y a une mauvaise surprise. Hein? Le prophète n'est même pas sorti pour l'accueillir. Il ne le fait pas entrer non plus pour le voir. Élisée, on voit juste un messager pour délivrer un message. Bon. Essayez de vous mettre à la place de Naaman. Vous venez d'un pays plus ou moins adversaire qui s'appelle la Syrie. Souvent, vous menez des expéditions en Israël, donc c'est vraiment votre adversaire. Vous êtes un puissant général, vous avez tout ce qu'il faut dans votre pays, mais vous avez juste un petit problème qui est cette lèpre. Bon, un petit problème parce qu'à la fin, il n'arrivait pas à s'en débarrasser. Et pour ça, il a suivi le conseil d'une petite fille, d'une esclave. Il a demandé à son roi d'écrire un laissez-passer pour qu'il puisse aller dans le pays adversaire. Il a emmené beaucoup de richesses pour essayer de payer le prophète en échange de la guérison. Et qu'est-ce qui se passe ? Une fois qu'il arrive devant la porte du prophète, le prophète ne daigne même pas à l'ouvrir. Il est resté dehors. Il y a juste le messager qui lui dit « Ben vas-y, lave-toi à côté. » C'est quand même un peu choquant de la part d'Élisée de ne pas recevoir un puissant général. Ensuite, le deuxième point, bon, je l'ai déjà dit tout à l'heure, le messager lui dit tout simplement, « Va te laver 7 fois dans le fleuve du Jourdain, alors tu seras guéri et tu deviendras pur. » Ensuite, quand on regarde le verset, au verset 11 et au verset 12, on voit que Naaman est totalement en colère. Je vous ai expliqué une première raison. Une autre raison, c'est que lui, il s'attendait, bon, comme tous les autres prophètes, il y a une sorte de cérémonie de guérison. Peut-être que lui, il dit dans le texte que le prophète va consulter le Seigneur, va poser sa main sur l'endroit où il y a les plaies, et puis après, les plaies vont disparaître. Mais à la place de ça, il a juste envoyé un messager et lui a demandé de se laver dans le fleuve du Jourdain. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il est aussi choqué ? C'est qu'il a essayé de mettre de côté tout son ego. Et tout son orgueil, il a essayé de s'humilier au même niveau que son esclave pour suivre son conseil. Il a essayé de mettre de côté tout son ego personnel parce qu'il était un puissant général syrien, l'adversaire d'Israël. Il a accepté d'aller dans le territoire adverse pour essayer d'être guéri. Et que même, ce n'est pas suffisant apparemment, il faut encore qu'il se lave dans le fleuve du pays adversaire. Il s'est dit, ben, nous aussi, on a des fleuves qui sont pas mal, qui sont grands, qui sont peut-être propre, mais pourquoi il faut que je me lave dans le fleuve de Jourdain ? Et ça peut être aussi la même chose pour nous. Des fois, nous demandons à Dieu d'intervenir dans notre vie. Il nous arrive même à obliger Dieu à agir selon notre propre logique. Pourtant, Dieu n'a pas la même logique que nous. Dans 2 Pierre 3:8, il est dit, « C'est que pour l'Éternel, un jour est comme 1 000 ans, et 1 000 ans comme un jour. » Là, notre logique de mathématiques tombe à l'eau. De plus, nous, humainement, nous avons une visibilité restreinte. Nous n'avons une visibilité que sur le court terme, et nous ne voyons que tout ce qui est autour de nous. Pourtant, Dieu, à l'opposé, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il a une visibilité sur l'infini. Et il garde sous son regard tout l'univers entier et chaque individu qui le compose. Pour nous transformer, Dieu veut briser notre ego, notre orgueil, et montrer que ces choses sur lesquelles on peut être attaché sont rien sans lui. Par la suite, il veut nous apprendre à tout remettre entre ses mains, de telle sorte qu'il soit notre unique Dieu. Dans notre texte, pour la suite au verset 14, on voit finalement que Naaman accepte de se laver dans l'eau du jardin, comme le prophète l'a demandé, et il fut guéri. C'est le fruit de l'obéissance à Dieu. Cette scène peut aussi nous rappeler qu'auparavant, quand nous ne connaissions pas Dieu, nous étions aussi impurs et nous méritions la mort, comme le dit Romains 6, 23. Mais grâce au sacrifice de Jésus-Christ, nous pouvons devenir purs par son sang. Et ce qu'il attend de nous, c'est d'accepter que ce sacrifice de Jésus est pour nous individuellement, de l'accepter comme notre sauveur personnel, puis tout remettre entre ses mains et de l'accepter comme notre unique Seigneur. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Maintenant, je vous invite à voir la dernière partie du texte à partir du verset 15. C'est un peu ce qui se passe suite à la guérison de Naaman. Donc, suite à sa guérison, Naaman retourna voir l'homme de Dieu, car il savait qui l'a guéri. Il reconnaît la puissance de celui qui l'a guéri. Et il veut le remercier et lui dédier le reste de sa vie. Cette partie me rappelle aussi l'histoire des 10 lépreux que Jésus a guéris dans Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Donc je vous rappelle vite fait le contexte. Il y avait 10 lépreux qui allaient voir Jésus pour qu'il le guérisse. Jésus leur a demandé, allez vous présenter devant les responsables de religieuses juives. Et au cours de route, les 10 sont guéris. Et parmi ces 10, il n'y en a qu'un seul qui est revenu voir Jésus. Et quand il est revenu voir Jésus, il se jeta aux pieds de Jésus, le front contre sol, et le remercia. Et à lui, Jésus dit, « Lève-toi, ta foi t'a sauvé. » En effet, la guérison de ces 10 lépreux est un signe ou un miracle pour qu'ils puissent reconnaître que Jésus est l'envoyé de Dieu. Il est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que par la foi, ils aient la vie en son nom. Si Jésus a dit aux lépreux que sa foi l'a sauvé, ce n'est pas seulement sauvé de la lèpre, car les 9 autres sont aussi guéris de la lèpre. Il est sauvé, car il a la vie éternelle, en croyant que Jésus est le Messie envoyé par Dieu, c'est-à-dire celui qui est venu pour nous sauver du péché. C'est aussi le cas pour Naaman. Dans notre texte, sa guérison est un signe pour lui montrer qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que pour le reste de sa vie, il ne veut plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Par rapport à cette dernière partie du texte, peut-être que, comme moi, Vous vous posez aussi la question, pourquoi Élisée a refusé les cadeaux offerts par Naaman ? Naaman a apporté ses cadeaux de son pays pour payer le prophète pour le guérir. On ne peut pas acheter le salut offert par Dieu. De même pour notre salut, c'est Jésus qui l'a payé à notre place par son sang. Ce qu'il attend de nous, c'est d'accepter ce salut qu'il veut nous offrir. Et comme Naaman, si on accepte ce salut, on sera aussi pur. Pour conclure, j'aimerais mettre en relief trois points. Le premier point, c'est Dieu est omnipotent, mais il veut collaborer avec nous. Omnipotent parce qu'il peut tout faire, il est puissant, il peut faire les choses d'un seul claquement des mains, mais il veut quand même collaborer avec nous. Dieu peut utiliser des gens simples pour toucher des gens puissants. La question n'est pas quelles sont vos compétences ou bien combien d'années d'expérience avez-vous, comme si vous allez passer un entretien d'embauche. Mais la question c'est, est-ce que vous voulez collaborer avec lui? Est-ce que tu veux collaborer avec lui? Pour toucher ces gens, Dieu veut que comme cette fille, on ait de la compassion envers toutes ces personnes. D'autre part, on a vu que cette petite fille avait de grands problèmes, mais au lieu de se lamenter sur son sort et de se plaindre auprès de Dieu, elle a accepté de collaborer avec lui. Comme Ésaïe au chapitre 6, verset 8, répondant à l'appel du Seigneur en disant « J'entendis le Seigneur qui disait « Qui enverrai-je? Qui ira pour nous ?» Je répondis « Je suis là, envoie-moi. » Le deuxième point que je voudrais vous dire, c'est que Dieu utilise les situations désespérées pour montrer sa puissance. Guérir Naaman, c'était impossible humainement parlant. Mais Élisée a dit, faites-le venir et il verra qu'il y a un prophète en Israël. Les grands problèmes sont là pour montrer qu'il y a un Dieu qui existe et qu'il est puissant. Le troisième point, pour ceux qui sont comme Naaman, qui cherchent l'essentiel pour leur vie, je voudrais vous dire, approchez-vous de Dieu et il assouvira votre soif. Dans Jean chapitre 4, verset 14, Jésus dit, « Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour ces encouragements. Je te remercie de nous avoir montré comment tu agis. Je te remercie de nous avoir choisi à collaborer avec toi, Seigneur. Merci pour ce grand privilège, parce que je sais que toi, tu peux tout faire de toi-même, comment tu as créé l'univers. Mais tu veux collaborer avec nous. Tu veux qu'on collabore avec toi. Merci pour ce grand privilège, Seigneur Jésus. Merci aussi parce que tu es un Dieu puissant qui est à notre chevet, Seigneur, qui prend soin de nous. Merci pour ces situations difficiles que l'on fait face, parce que grâce à eux, notre foi grandira. Et merci Seigneur Jésus, parce qu'il n'y a que toi qui peux assouvir notre soif, Seigneur. Merci parce que tu es l'essentiel de notre vie. Tu es la raison de notre vie. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen.